partie dans une grande épopée faite de mille et un jeux, mais d'une seule vie pour en profiter. À chaque chapitre, trois jeux et une nouvelle histoire, beaucoup trop près de l'écran pour une vie dans le noir. L'histoire d'un mec qui choisit ses jeux à la jaquette, qui pour s'y essayer doit démêler toutes ses manettes. Mais les céréales se versent en bol et la liste s'écrit, peu importe la console, peu importe le stick. Ici rien n'est scientifique, les boutons clic clic et nous rendent nostalgiques. La liste dans la tête, les pixels dans les yeux, la route va être longue pour trouver ces mille et un jeux.
Pour cet épisode, je vous emmène rencontrer des dieux, je vous propose aussi une petite partie de Grolf, et enfin, on va aller s'aventurer longuement en Albion.
Mille et un jeux à découvrir avant de mourir est un podcast indépendant produit pour et par les contributeurs du Patreon de Punky.
Merci.
Retrouvez un nouvel épisode chaque mois, ainsi que tous les anciens épisodes sur patreon.com/punkyfr.
Alors notre premier jeu, il s'appelle Gods, et c'est un jeu que j'ai connu quand j'étais tout petit sur la Mega Drive. J'ai dû le connaître aux alentours de 93-94. Mais c'est un jeu qui était sorti d'abord sur Amiga en 91. C'est un jeu qui est fait par les Bitmap Brothers, qui sont des développeurs anglais emblématiques. Les vieux briscards du jeu vidéo les connaissent bien pour Xenon 2 et Speedball 2. Mais on oublie souvent qu'ils ont fait Gods, qui est un jeu que je trouve vraiment trop cool. Donc Gods, c'est un jeu en 2D, je dirais que c'est un puzzle platformer. Ça veut dire qu'on va à la fois devoir faire preuve de beaucoup d'adresse dans les combats et dans les différents obstacles qui vont s'opposer à nous. Mais ça veut dire aussi qu'on va devoir résoudre tout un tas d'énigmes, notamment chercher beaucoup de clés pour ouvrir beaucoup de portes, mais aussi désactiver certains pièges à l'aide de leviers et tout un tas d'autres réjouissances dans ce genre. Bon, alors le scénario du jeu, il est vite fait, on incarne Hercule qui va partir à la conquête de l'immortalité, et évidemment pour ça il va parcourir tout un tas de niveaux de plus en plus difficiles. D'ailleurs, en parlant de la difficulté du jeu, hein, je tiens à vous le dire tout de suite, c'est pas un jeu qui est facile, et moi je me souviens que quand j'étais petit, j'avais du mal à dépasser le premier, voire le deuxième niveau, je crois que j'allais pas très loin. Mais c'est une fois que je l'ai repris en main adulte que je me suis rendu compte à quel point le jeu il était ultra calibré. Bon alors très clairement, Hercule il est pas très souple, hein, c'est pas Mario, il avance un peu case par case, quand il se baisse on sent bien que la limite du sprite elle est bien définie. Pareil pour les escaliers, hein, ça se passe un peu comme dans Castlevania les tout premiers sur NES, c'est-à-dire qu'il les monte marche par marche et très lentement, et en fait vous allez vite vous rendre compte que c'est surtout une masse de muscles et pas tant que ça un exemple en termes de souplesse. Donc le but ça va être avec notre petit lancer de couteau de pouvoir anticiper leur mouvement afin d'éviter qu'ils s'approchent trop rapidement de nous. Bon déjà dans l'idée il a un petit côté on va dire mythologie grecque complètement remixé avec un univers à la métal hurlant. C'est-à-dire que c'est très graphique, c'est presque comics parfois. Et à ce niveau-là c'est clair qu'on sent bien la patte des Bitmap Brothers, autant en termes de graphisme que de musique. J'aime beaucoup le design des décors et des ennemis. D'ailleurs les ennemis ils sont plutôt malins, hein, ils ont tendance à essayer de vous prendre à revers. C'est peut-être là où d'ailleurs le jeu devient un petit peu difficile. Comme beaucoup de jeux à l'époque, si le jeu est difficile ça veut aussi dire que souvent qu'il est très court. Et là vous dites que le jeu il a beaucoup de défauts, mais en fait il a aussi beaucoup de qualités, notamment tout l'aspect esthétique et artistique qui est vraiment très réussi. Alors pourquoi il devrait rejoindre la liste des mille et un jeux à découvrir avant de mourir? Parce que je trouve que c'est une très très bonne introduction au style du puzzle platformer, à la Prince of Persia ou à la Flashback, parce que ça se rapproche aussi des mécaniques qu'on a connues un peu dans les Metroidvania après, du style Castlevania ou Metroid, même si pour le coup il s'agit pas d'un monde ouvert mais de petits stages et de petits tableaux à compléter. Bref, je trouve que ce jeu il a souvent été mis de côté dans la carrière des Bitmap Brothers et je trouverais ça bien qu'on le remettre sur le devant de la scène, et parfois c'est suffisant pour l'inclure dans notre liste. Laissez-moi vous parler de mon nouveau sport préféré, le golf. Alors si vous ne connaissez pas le golf, laissez-moi vous l'introduire. Alors pour jouer au golf, c'est simple, il vous faut un maillet ainsi qu'une grenouille. Oui oui, une grenouille bien vivante. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire de mal à cette grenouille, hein, puisque vous allez l'installer sur un petit mécanisme. Et c'est sur ce mécanisme que vous allez taper avec le maillet, le plus fort possible et le plus droit possible, pour envoyer votre grenouille sauter à l'autre bout du green. Et là vous me direz, mais Punky, mais quel est le but final du golf ? Eh bien le but final du golf, c'est d'avoir le plus de points. Et pour marquer des points, il y a plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez essayer de faire manger tout ce qui est possible à votre grenouille, que ce soit des mouches ou des libellules. Vous pouvez aussi essayer de les envoyer sur des marques ciblées, qui vous rapporteront aussi un certain nombre de points. Mais la meilleure façon de marquer des points, c'est encore d'être le premier à mettre sa grenouille dans le grou. Voire mieux, carrément faire un grou en un. Oui oui, un grou en un, c'est-à-dire mettre la grenouille dans le trou du premier coup. Alors ce sport, je l'adore, et vous le retrouverez sur PS2 et GameCube dans Ribbit King. Et autant dire que quand je l'ai découvert, ça a été un vrai coup de cœur. Déjà parce que, de base, j'adore les jeux de golf, qu'on parle des Mario Golf de la GBA que j'ai saigné, ou même des jeux plus récents comme Golf With Your Friends ou Golf Story, par exemple. Le golf en jeu vidéo, c'est un concept très con, mais j'adore ça. Mais ce que j'aime par-dessus tout avec Ribbit King, c'est que justement, c'est pas du golf, c'est du grolf. Et en fait, le grolf, c'est une sorte de version fun du golf. Imaginez que le green, il est rempli de petits obstacles et de choses qui vont empêcher votre grenouille d'avancer correctement. Par exemple, il y a des zones qui sont remplies d'eau, des petits lacs, et il faut savoir que votre grenouille, une fois arrivée dans l'eau, elle va continuer à nager tout droit jusqu'à croiser sa première rive. Pareil pour certains animaux qui prennent la grenouille et l'envoient dans tous les sens. Bref, un terrain de golf peut être autant votre allié que votre ennemi, et ce sera donc à vous de vous débrouiller pour récupérer un maximum de points, tout en étant le premier à mettre votre grenouille dans le grou. Une action qui rapporte aussi un certain nombre de points. Une fois que chaque joueur a fini son parcours, on calcule les points, et le joueur qui a le plus de points gagne la partie. C'est extrêmement simple, ça joue un petit peu sur l'aléatoire et les conditions de chaque terrain, ce qui fait que le jeu reste varié et plein de surprises pendant très longtemps. Et c'est vrai que c'est une qualité que n'ont pas tous les jeux de golf qui ont tendance à être plan-plan au bout de quelques circuits. Ici, on a énormément de thématiques différentes avec des obstacles différents, ce qui fait que en solo comme en multi, eh ben, y a de quoi s'amuser pendant longtemps. Et Ribbit King, il a totalement sa place dans la liste des 1001 jeux à découvrir avant de mourir. Déjà parce que c'est un des seuls jeux à faire ça, en dehors du premier jeu de la série qui était sorti sur PlayStation, qui a exactement le même concept mais qui s'appelle Kero Kero King, et du troisième épisode sorti sur DS qui s'appelle Kero Kero 7. Malheureusement, de toute la série, seul Ribbit King est arrivé par chez nous, et n'a malheureusement pas rencontré un succès énorme, notamment parce qu'il y avait quasi pas eu de communication autour du jeu. Mais je pense que si vous voulez lancer un jeu simple en soirée, c'est parfait. Vous reprenez les principes de base du golf, et vous y ajoutez que des trucs fun. Et mignon, hein, parce que je l'ai pas précisé, mais tout est super kawaii dans ce jeu. Imaginez une espèce de mélange entre Animal Crossing et Adventure Time. Et avec évidemment une touche un peu japonisante qui est succulente. Bon, par contre, le seul défaut de Ribbit King, c'est que son mode multijoueur est limité à 2 personnes. Mais franchement, c'est pas vraiment un mal vu que les parties de golf à 4 ont tendance à s'éterniser. Et alors, vous imaginez bien qu'avec le nombre de réactions en chaîne que vous pouvez faire avec votre grenouille, entre les grenouilles qui font 3 km à la nage, mangent un moucheron, puis mangent un autre moucheron, etc., bah vous imaginez. Imaginez bien que les tours sont un peu plus longs que sur un jeu de golf classique. Et à 4, autant dire que ça s'éterniserait. Mais ça n'enlève pas du tout à l'originalité de Ribbit King, qui mérite aisément sa place au sein de cette liste. Bon, alors autant qu'on en parle tout de suite, je vais vous le dire, j'ai un faible pour la 360. La Xbox 360 de Microsoft, c'est pas ma première console, c'est même pas une marque pour laquelle j'étais, puisque j'ai pas eu la première Xbox, mais ça a été mon premier contact avec toute l'ère des jeux HD, pour laquelle j'ai une affinité particulière, et c'est exactement de ça dont on va parler, puisqu'on va parler évidemment de Fable 2. Oui, vous devriez découvrir Fable 2 avant de mourir. Vous le verrez à la fin de l'émission, c'est un jeu qui est difficilement accessible aujourd'hui, mais pourtant, il vaut le coup qu'on se procure la console et tout ce qu'il faut pour y jouer. C'est peut-être un jeu dont vous avez entendu tout et son contraire à son sujet. Et je le comprendrais aisément, puisqu'il a eu un développement plutôt compliqué. En fait, c'est pas tant le développement qui était compliqué, mais plutôt la personne à la tête du développement, c'est-à-dire Peter Molineux. Bon, Peter Molineux, comme avec Fable 1, quand Fable 2 a été annoncé, il a fait énormément de promesses qu'il a pas tenues, évidemment, parce que c'est Peter Molineux, et évidemment la presse lui a reproché à la sortie du jeu, ce qui est normal. Pour ceux qui connaissent pas Peter Molineux, c'est quelqu'un qui est connu pour un petit peu survendre ses jeux. Par exemple, pendant le développement de Fable 1, il a promis que ce serait un jeu où tu pourrais planter une graine et que si tu attendais assez longtemps, il y avait un arbre qui allait pousser. Ce genre de truc qui n'était évidemment pas dans le jeu, ou alors de manière très contextuelle. Bon bah évidemment, quand Fable 2 a été annoncé, il a recommencé. Cette fois-ci, il avait décidé que c'était lui qui avait inventé le chien. Le concept de chien, c'est-à-dire d'animal de compagnie qui fait fois, c'est lui qui l'a inventé. Non, j'en fais un peu trop, mais c'est vrai qu'il en a fait beaucoup sur ce chien. Et effectivement, il y a un chien dans Fable 2, un chien qui est appréciable, hein, auquel on s'attache beaucoup, mais qui n'était pas le chien qu'avait annoncé Peter Molineux quand il parlait de son jeu. Clairement, il y a des tonnes de features qui manquent, mais c'est un peu ça que j'aime avec Fable 2, c'est que c'est un jeu qui était très ambitieux, qui a fait peut-être 50% des features qu'ils avaient annoncées, mais vu qu'ils avaient annoncé énormément de choses, bah 50% des features annoncées, c'est quand même un gros paquet, quoi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un jeu qui est super riche, et super riche sur des mécaniques que j'adore. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Fable, c'est un RPG à l'américaine, je dirais même un action RPG. De toute manière, dans le jeu, l'aspect RPG, il est très light, il est divisé sur 3 compétences, les armes de combat à la main, c'est-à-dire les épées, les masses, etc. Les armes à distance, donc c'est-à-dire les arbalètes, les fusils, etc. Et puis la magie, c'est-à-dire l'ensemble de vos pouvoirs magiques, feu, temps, glace, ce que vous voulez. Donc au final, on a seulement 3 compétences à monter et le choix entre 3 styles de jeu, même si la plupart des joueurs feront quelque chose de plutôt équilibré, parce que c'est ce qui est plutôt intéressant pour avancer dans le jeu sans trop d'encombre. L'aspect RPG, il est aussi sur la création de son personnage. Bon, c'est très limité puisqu'on a le choix entre un homme et une femme, mais par contre, ce personnage, vous allez le modeler au fur et à mesure de votre aventure. Au départ, c'est plutôt une coquille vide qui va commencer à changer physiquement par rapport à vos actes. Si vous commencez à manger n'importe quoi pour vous remettre de la santé, comme par exemple du poulet, des tartes, ce que vous voulez, à ce moment-là, votre personnage va commencer à grossir. Et de même, bah, pour le faire maigrir, il va falloir manger un peu de légumes. C'est pareil pour ce qui est de l'alignement. Si vous êtes quelqu'un de plutôt vilain, vous allez commencer à avoir la peau qui s'assombrit, à avoir des cornes qui poussent, des cicatrices, etc. Alors que si vous êtes quelqu'un de plutôt bienveillant et gentil, eh bah, vous allez avoir une belle aura, les gens vont vous trouver très beau. Et puis il y a évidemment beaucoup de personnalisation en jeu, que ce soit les vêtements, les coupes de cheveux, les tatouages, les maquillages. Donc on est sur un RPG avec, comme vous l'avez vu, du combat d'action, c'est-à-dire qu'on mâche des boutons, un bouton pour l'épée, un bouton pour l'arme à distance et un bouton pour la magie. On n'est pas non plus dans Skyrim, et encore moins dans des Baldur's Gate et compagnie. On est quand même sur un RPG à l'américaine, mais ultra accessible, et c'est peut-être ça que j'aime le plus. Accessible, ça veut pas dire qu'il est pas profond et riche. Justement, je trouve que Fable 2, il a une très grande richesse dans son système de communication. Votre personnage va pouvoir communiquer avec l'ensemble des PNJ du jeu. Du donneur de quête au compagnon de l'aventure principale, en passant par n'importe quel habitant d'Albion, vous allez pouvoir communiquer avec eux à l'aide d'une roue d'expression que j'aime beaucoup. Et alors, les expressions sont classées en différentes catégories, mais en général, je les comparerais un petit peu à ce que peuvent faire les Sims. C'est-à-dire qu'on va avoir des pouces en l'air, des pouces en bas, des choses positives. On va avoir cela péter, faire une blague, péter des choses comme ça. On a aussi l'occasion de montrer ses trophées, de faire des tours avec son chien, de jouer de la musique, énormément de choses qui vont nous permettre de communiquer avec les différents personnages qu'il y a dans le jeu. Tous ces personnages, ils ont des noms, des métiers, des préférences, des hobbies, des passions, des orientations sexuelles, et en fonction de tout ça, vous allez pouvoir augmenter votre popularité auprès d'eux, et en fonction de votre popularité, bah, ils vont réagir de différentes façons en réaction à votre présence. Si les gens vous aiment bien, ils vont vous faire des cadeaux, et s'ils vous détestent, bah, ils vont simplement gens vous insulter. Les marchands qui vous apprécient vous feront des réductions, et si vous commencez à foutre le bordel en ville, eh ben il y a des gardes qui vont venir vous arrêter. Et ce que j'adore, c'est que ce système, il est pas seulement secondaire, il est aussi très implémenté dans la quête principale, et dans toutes les petites histoires que veut raconter le jeu. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent en faisant certaines interactions à certaines personnes, et vous allez même pouvoir vous engager dans des romances avec n'importe quel personnage du jeu, à condition qu'il ait la bonne orientation sexuelle, et évidemment que vous fassiez assez d'efforts pour lui plaire. Vous allez pouvoir vous marier, ce qui sera pris en compte par le scénario principal du jeu, et même avoir des enfants, et d'ailleurs votre moitié peut très bien vous quitter si vous ne passez pas assez de temps avec elle. Bref, c'est un système que je rapprocherais vraiment de celui des Sims ou des Urbs, et que j'aime beaucoup parce qu'elle a été intégrée à tout un tas d'aspects du jeu. Il y a tout un aspect immobilier où vous pouvez acheter des maisons, les louer, ou simplement vous installer dedans, les remeubler, etc. Et bah ça, ça compte aussi pour les relations avec vos autres personnages. Par exemple, votre famille, vous allez pouvoir l'installer dans une maison, ou vous allez pouvoir simplement gérer les locataires et le loyer de chaque propriété que vous avez acheté. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Fable 2, c'est que vous ne partez de rien, avec votre petite épée en bois et votre chien, et vous allez vivre une grande aventure, une aventure qui va être à la carte, parce qu'il y a beaucoup de quêtes secondaires que vous allez faire ou ne pas faire, qui vous débloqueront des possibilités ou pas dans le jeu, et qui vous mèneront irrémédiablement jusqu'au trône d'Albion. À la liste des qualités du jeu, j'ajouterais une super VF. Il y a énormément de lignes de dialogue dans ce jeu, et c'est un miracle qu'ils aient fait l'effort de le doubler en français. Faut savoir que c'est un jeu qui a beaucoup d'humour un petit peu anglais à la base, qui est souvent assez difficile à retranscrire. Mais pour le coup, cette VF, il y a un vrai effort de fait et elle est très drôle tout le temps. De même, le scénario, je trouve plutôt bien écrit. Vous allez devoir sauver Albion, évidemment. Mais régulièrement, on va vous offrir des choix qui vont vous permettre soit de redorer votre image, soit de complètement sombrer dans les ténèbres. Et c'est peut-être ça que j'apprécie le plus, c'est le fait que cette aventure, elle se passe dans un monde qui est modelable en fonction de vos actions. Et je pense que malgré le fait qu'il n'ait pas tenu toutes ses promesses, il y a assez de features et de nouveautés dans ce package, voire même de choses qui n'ont jamais été refaites depuis, y compris dans sa suite Fable 3, qui a quand même amputé une grosse partie des systèmes de Fable 2. C'est pour toutes ces raisons que je trouve que vous devriez jouer à Fable 2 si vous ne l'avez jamais fait, et c'est clairement un des premiers jeux que j'ai envie d'inscrire sur cette liste, parce que malgré, encore une fois, les mensonges et les promesses non respectées, il aurait dû révolutionner le jeu vidéo, et tous les jeux auraient dû avoir envie de faire pareil. Je veux dire, il y a très peu de jeux qui peuvent aussi bien vous immerger dans son univers, sur une durée aussi longue, parce que c'est quand même un jeu qui a une belle durée de vie, et une belle replay value, et je trouve que c'est une des plus belles portes d'entrée pour les nouveaux joueurs, vers le RPG à la Elder Scrolls, voire même à la Baldur's Gate. Je trouve ça très bien pour commencer, même si on n'a jamais fait de RPG de sa vie, et l'ambiance fantasy super colorée et les musiques géniales valent largement le coup d'être découvertes dans le contexte du jeu. Gods est évidemment disponible en émulation, je vous recommande la version Amiga évidemment, mais la version Mega Drive est pas honteuse contrairement à beaucoup de portages Amiga sur Mega Drive. Une version remasterisée est aussi sortie sur PC et Xbox. Je n'y ai pas joué, je ne sais pas ce qu'elle vaut et je me garderai bien de donner un avis dessus. Pour Ibit King, il n'est jamais ressorti, il faudra se contenter d'un exemplaire sur GameCube ou sur PlayStation 2. Bon, c'est un jeu qui s'émule très bien aussi, même si on aimerait une Ibit King trilogie avec Kero Kero King et Kero Kero 7. Pour Fable 2, malheureusement, il est resté bloqué sur la Xbox 360. Mais par bonheur, il fait partie de la liste des jeux qui sont rétrocompatibles avec les consoles suivantes de Microsoft, même si malheureusement, il ne bénéficie d'aucune amélioration.
Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez ajouter votre jeu préféré à la liste ? Notez le podcast et proposez son nom dans les commentaires de votre application de podcast préférée. Ainsi, votre jeu aura peut-être la chance d'être tiré au sort pour les prochains épisodes de 1001 jeux à découvrir avant de mourir.
L'habillage son et le générique ont été faits par Monsieur Z, les voix off par Chloé Goujon et la production et le montage par moi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode et à dans un mois.